Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard.
Et Jean-Claude César.
Et ça se passe tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois. Cette voix de rocaille, c'est la voix de Vladimir Mayakovsky, Vladimir Vladimirovitch Mayakovsky, à qui nous rendons hommage ce soir. Alors, spécialement, je dois saluer à nos côtés Julien Guil,
bonsoir,
membre de l'équipe, mais qui va présenter cette émission avec Yves et avec moi, puisque Julien, toi, tu as travaillé depuis quelques années sur un...
Sur le nuage en pantalon.
Voilà, un grand texte de Mayakovsky, dont je crois d'ailleurs que tu vas faire une petite tournée dans les Raux, dans les médiathèques.
Voilà, j'ai fait une petite tournée.
On ne fait pas de pub dans cette émission, mais pour nos camarades de la BIP, on fait une exception. Et voilà. Donc, ce Vladimir Mayakovsky, je pense que c'est un nom que tout le monde connaît.
Le phare
Mayakovsky. Bon, il est évidemment lié à la révolution russe, à la révolution soviétique, mais et comme on peut dire d'ailleurs, il finit pour nous l'année de la Russie, hein, puisqu'on a parlé d'Akhmatova, de Tsvetaeva, qui sont un peu de la même époque. On va aller rapidement parler un peu de sa vie, quoi, de sa biographie à ses tout débuts. Hein. Il naît en Géorgie, à Bagdadi, dans un petit village de Géorgie. Son père est un garde forestier, je crois, de la noblesse déchue. Et donc oui, puisque garde forestier, quand on était noble, c'est pas vraiment une sinécure. Et tu peux me dire des choses aussi un petit peu sur son enfance.
C'est-à-dire, c'était un élève, une sorte de jeune artiste, c'est-à-dire très très fort pour ce qui est tout des beaux-arts, récitations, un cancre. Et en fait, tout ce qui est artistique à travers lui, ça devenait assez magique, c'est-à-dire les gens, quand les gens venaient, ils déclamaient ses poèmes, ils les écrivaient pas encore, ils déclamaient des poèmes. Il aimait jouer.
Voilà, très joueur dans des petits poèmes.
Très joueur, très artistique, ouais. une grande mémoire, une grande capacité de donner, d'être. Mais par contre,
voilà,
un
joueur
cancre,
mais
insolent,
un petit peu voyou aussi, voilà, ouais. Qui aime bien, qui allait jouer plutôt aux cartes avec les militaires de voilà. passage, en piquant un billet de quelques roubles dans la cagnotte familiale.
Quand il est arrivé à Moscou, on l'appelait le voyou. Hein,
le voyou,
le
voilà.
Voyou édenté, il n'avait plus de dents.
Voilà, il n'avait plus de dents, oui. Et d'ailleurs, il dit dans des poèmes, quelques poèmes sur son enfance et son adolescence. D'abord, son enfance, il dit, le père le menaçait de coups de ceinture, quoi, parce qu'il allait jouer plutôt avec les marins et les soldats que d'aller à l'école. Sa mère se désolait, évidemment. Et puis, il y a un événement très important, c'est quand même la mort de son père quand il est très jeune. Quoi. Ce père meurt de septicémie et ça va le marquer, je crois.
Ça va le marquer parce qu'il a développé du coup une grosse névrose sur tout ce qui est un maniaque de la propreté. C'est-à-dire,
voilà.
Il apprenait quand il était parti aux États-Unis, il apprenait à dire en anglais comment ne pas dire bonjour aux gens sans leur toucher les mains.
Voilà, et elle s'attriolait, qui raconte par exemple qu'à Paris, il avait toujours un bout de savon dans sa poche, voilà, parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir. Il se lavait les mains 15, 20, 30 fois par jour, quoi. Il était obsédé par ça. Donc ce gamin, il va, dès que le père est mort, il va partir, la famille va émigrer à Moscou, voilà. Et donc là, il va aller au lycée, mais très très vite, là, c'est un élève brillant, mais en même temps, très très vite, il est saisi par les idées révolutionnaires et il va se faire plusieurs fois arrêter, très jeune, hein, je crois, la première fois à 14 ans.
Ouais, même 11
même
ans.
13 ans, peut-être, je ne sais pas, enfin peu importe.
Ans, il se retrouve arrêté parce qu'en fait, il avait des tracts.
Des tracts, voilà. Il se fait arrêter,
tracts, emprisonné à plusieurs reprises.
À plusieurs reprises, et une fois assez longtemps, je crois 11 mois, il me semble, quand voilà, il a 16 ans. Et c'est là qu'il a un choc, parce qu'il a déjà touché, enfin, il aime bien dire, il a cette sensibilité d'artiste, mais là, tout d'un coup, il se rend compte qu'il faut se cultiver si on veut arriver à quelque chose, quoi. Et qu'il ne suffit pas de brandir des mots d'ordre révolutionnaires, il faut aussi se cultiver, quoi. Lire. Et là, il commence à lire énormément, il lit tout ça. Enfin, en tout cas, après, en sortant, je ne sais pas même
si... Énormément, il commence à écrire.
Il commence à écrire,
il dit que ses geôliers lui ont enlevé, confisqué en sortant de prison son recueil de poèmes, et il les en remercie.
On ne sait pas pourquoi, parce que ça l'a peut-être incité à écrire des vers meilleurs, quoi. C'était peut-être ça qu'il voulait dire. Bon, on va peut-être le laisser Françoise Abbeau, qui a accepté de collaborer à cette émission, nous dire un petit bout de Maïakovski en russe.
Послушайте, послушайте, вед, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они били. Значит, кто-то называет эти привычки жемчужиной.
Écoutez, si on allume les étoiles, c'est donc à quelqu'un nécessaire, c'est que quelqu'un désire qu'elle soit, c'est que quelqu'un nomme perle ses crachats. Et déchirant la tempête à midi des poussières, il se précipite vers Dieu, craint d'être en retard, pleure, baise sa main noueuse, implore, il lui faut absolument une étoile, jure qu'il ne supporte pas ce martyr sans étoile. Et après, marche de long en large, avec inquiétude, calme pourtant en apparence. Il dit à quelqu'un, « Alors, ça va maintenant? T'as plus peur, hein ?» Écoutez, si on allume les étoiles, c'est que c'est à quelqu'un nécessaire, c'est qu'il est indispensable que chaque soir, par-dessus les toits, s'allume au moins une étoile.
Et après, je crois qu'on va encore écouter deux autres textes qui sont un petit peu, voilà, qui donnent tout de suite la faconde, voilà, cosmique un peu de Maïakovski, parce que c'est toute une poésie, voilà, qui prend à témoin le monde entier. Et comme on l'a dit, ici on allume les étoiles, mais c'est aussi une poésie faite avec des mots très simples, hein, comme on va voir. Et ça va être tout au long de sa vie. On n'a pas dit au début, évidemment, cette fin qui. C'est un poète qui meurt très jeune, il meurt à 37 ans. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne lui compte. Hein, il se suicide, ça c'est ce que tout le monde sait sur Maïakovski. Mais nous, on va essayer de reprendre le parcours dès le début. On écoute encore deux textes de lui.
D'un coup, j'ai barbouillé la carte du quotidien en faisant gicler la couleur hors du verre. J'ai exposé sur un plat de gélatine les pommettes torves de l'océan. Sur les écailles de fer blanc d'un poisson, j'ai lu l'appel de lèvres nouvelles. Et vous le pourriez? Jouer un nocturne sur la flûte de la gouttière ?
Ils ne comprennent rien. Je suis entré chez le coiffeur et j'ai dit calmement « Voulez-vous bien me peigner les oreilles ?» Soudain, le coiffeur aimable s'est changé en conifère hérissé. Son visage s'est allongé comme une poire. « Oh fou ! Le rouquin !» Les mots ont bondi et l'insulte a fulminé en piaulement. Et longtemps, une espèce de tête à ricaner, arrachée de la foule comme un vieux radis.
Sanctificateur du monde qui remet tous les péchés, le soleil a posé sa paume sur ma tête. Pieuse entre toutes les nonnes, la nuit a mis sa robe sur mes épaules. Je baise l'évangile aux mille pages de mon amour. J'ai fait à l'amour ma prière douloureuse et sonnante. Mon âme attend une autre venue, et j'entends taire ton Nunc Dimittis. Dans l'arche de la nuit, nouveau Noé, j'attends que parmi le flot de Bure on vienne me chercher et qu'on tranche le nœud terrestre avec les glaives de l'aube. Elle vient, elle est là, la voici déployée, ses rayons sont partout. Ils ratissent, leurs boucles chantent et les jours s'y glissent doucement avec leurs carapaces d'agitation. Le soleil, à nouveau.
Mayakovski est donc arrivé à Moscou avec sa famille où il étudie après ses séjours en prison.
Mais
donc,
il sort de prison, il a grandi.
Il a grandi, il a eu plusieurs séjours en prison.
Au dernier séjour, après son dernier séjour, il sort, il fait 2 mètres quand même. C'est un grand bonhomme.
Oui, il a grandi déjà même, je pense, avant, parce qu'il était très, 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 très grand. On l'appelle double mètre. Hein. Il n'a pas de dents, mais par contre, il a de la taille. D'ailleurs, je pense que les dents, il va se les faire refaire par la suite. Puisque,
grâce à... Il en perdra un peu de son charme, parce qu'il paraît que ses maîtresses, qui étaient nombreuses, trouvaient qu'en tête-à-tête avec lui, malgré on arrivait à oublier le fait qu'il était édenté... par rapport à sa tendresse, et Lili Bric a voulu en faire un homme à dents.
Un homme à dents, c'est pas mal. C'était vraiment un Adam, lui, grande taille. Hein. Donc, quand il est à Moscou, il faudrait peut-être parler un petit peu de la Russie de l'époque, très rapidement. Hein. Donc, on est dans les années 1900. Il est né en 93, hein, on n'a pas 93. Dit ça. 1893. Donc, en 1905, il a 12 ans et il doit être très actif dans la période de 1910, un petit peu avant le début de la guerre. Et
c'est là qu'il participe avec des tracts, il garde un pistolet pour des activistes,
il commence
un peu à arriver au pouvoir, il participe un petit peu de ça, de sa place de jeune homme, et vraiment quand il sort de prison, là il commence à s'investir déjà beaucoup plus.
Voilà.
Il profite de cet essor et de ce mouvement pour lui renoncer à tout ce que sont les arts plastiques, il fait l'école des arts plastiques, à sortir de toutes les institutions.
Voilà, et ça c'est à partir du moment où ça... Mais enfin, en gros, il y a eu 2 révolutions en Russie. Ouais. Il y a eu 1905 qui a été une révolution avortée d'une certaine manière, enfin pas complètement, puisqu'il y a eu un mouvement réprimé, mais qui a quand même laissé place à l'installation d'un système parlementaire chapeauté quand même par le tsar, enfin la fameuse Douma, quoi. Mais la censure est restée très forte, quoi. Ça n'est tombé qu'en 1917, la censure, quoi. Enfin,
oui, c'est ça.
Voilà, la censure tsariste, en tout cas. Donc lui, il est toujours là-dedans, et il faut dire aussi que se passe à ce moment-là, la jeunesse russe est dans une ébullition absolument incroyable, qui est précédée par les Dostoïevski, les Tolstoï, qui ont brassé plein d'idées autour de la libération de ce peuple qui est pressurisé, parce que c'est quand même une grande puissance, la Russie, à l'époque. C'est déjà une grande puissance, ils font du commerce avec le Japon, avec l'Europe, ils ont beaucoup de réserves, beaucoup de richesses, mais en même temps, les moujiks, les paysans, sont dans une misère totale, et le début de révolution industrielle aussi, mais une classe ouvrière très 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 malmenée, quoi. Donc ça on oublie, il faut se mettre dans cette période,
il faut se mettre dans cet état d'esprit là pour comprendre où les jeunes poètes, les jeunes artistes, dans quel monde ils vivaient.
C'est-à-dire voilà, c'est une sorte d'équivalent. On peut dire les surréalistes ont été raflés par la révolution bolchevique, mais les Russes encore plus, quoi, les jeunes Russes. Et en plus, ils ont aussi l'envie de tout changer, du langage, de tout rénover. Il y a quelque chose.
Il y a la naissance du futurisme en Italie, et eux se l'approprient, c'est-à-dire le modernisme, le constructivisme et le modernisme.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est des mots qui sont un petit peu peut-être barbares pour les gens qui nous écoutent, mais bon, futurisme, c'est ça. C'est un art tourné vers le futur, vers les nouveaux moyens. Et surtout, alors là, il y a une rencontre qui est très importante pour Mayakovsky. C'est la rencontre de Bourliou, qui est un des fondateurs du futurisme en Russie, et de Khlebnikov, un poète dont j'espère on parlera, qui est une espèce d'illuminé. Khlebnikov, c'est un type qui a passé sa vie à vagabonder et qui invente d'ailleurs le zaoum, c'est-à-dire une forme de langage complètement improvisée, un peu comme pourrait dire les lettristes à une époque où Dada, en Europe, s'est mis à casser complètement le langage et à essayer de trouver des formulations phonétiques qui correspondent à des mots qu'il n'avait pas dans le vocabulaire, dans le dictionnaire. Voilà. Donc on invente des mots, et d'ailleurs il y a la marque de ça, encore dans même le Mayakovsky de la maturité, et lui, il y va à fond là-dedans.
Lui, c'est un grand inventeur de mots.
Et puis la peinture, hein, c'est un mouvement qui concerne autant la peinture, c'est pour ça que Mayakovsky, lui, il est à cheval sur les deux choses, puisqu'il a fait des études d'art appliqué, et donc il y va à fond. On verra un petit peu plus tard enfin, comment ça va exploser au moment de 17, quoi. Hein. Mais peut-être... On va peut-être relaisser la place à toi, Julien, peut-être précédé d'une version russe d'un petit bout du nuage en pantalon.
Le nuage en pantalon.
Славьте меня. Я велики мне чета. Я на всем, что сделано, ставлю ниль. Никогда ничего не хочу читать. Книги? Что книги? Я раньше думал. Книги делаются так. Пришел поэт, ярко разжал уста. И сразу запел вдохновенный простак. Пожалуйста. А оказывается, прежде чем
глорифиez-moi. Пьется, пьется. Je ne suis pas égal au grand. Sur tout ce qui fut créé, j'écris ni il. Je ne veux plus jamais rien lire. Les livres. Quoi les livres? Autrefois, j'ai pensé, c'est ainsi que se font les livres. Un poète arrivé, entrebâillait légèrement les lèvres, et illico, l'innocent inspiré, se mettait à chanter et à aller. Donc. Mais en réalité, avant que le chant ne vous vienne, on chemine, longtemps, les pieds couverts d'ampoules à force d'aller et venir, tandis que doucement, dans la vase du cœur, barbote le stupide poisson de l'imagination. Pendant qu'on fait bouillir, raclant les rimes, quelques brouées d'amour et de rossignol. La rue se tord, privée de langue, sans rien, pour crier ni parler. Nous érigeons de nouveau orgueilleux les tours babéliennes de nos villes. Mais Dieu rase les villes, les nivelle dans les champs, en confondant les langages. Et la rue contient sa douleur en silence, un cri fiché dans le gosier. Les taxis obèses, les calèches osseuses se hérissent, coincées en travers de la gorge. Et la poitrine de la ville est piétinée, en être plus plate que Ftizi. La ville a verrouillé sa route avec du noir. Et quand malgré tout, elle eut craché la cohue sur la place, repoussant ce parvis qui lui poignait la gorge, nous, on s'est pris à songer que c'était Dieu, détroussé, accompagné du cœur des archanges, qui venait pour se venger. Mais la rue s'est accroupie et s'est mise à brailler « Allons bouffer !» Les Krups, les bourgeois, gros et petits, fardent le masque de la ville d'un menaçant froncement de sourcils. Mais dans la bouche se décomposent les cadavres de mots morts, et deux seulement survivent et s'empiffrent. Salaud ! Et un autre, on dirait, qui ressemble à Bortch, la soupe populaire russe. Bortch, salaud ! Bortch, salaud ! Bortch, salaud ! Bortch, salaud ! Bortch, les poètes ! Tout ramolli de pleurs et de sanglots. On fuit la rue, la tignasse en bataille. Comment chanter avec ces deux mots? Et la jeune fille? Et l'amour? Et la fleurette sous la rosée? Et à la suite des poètes viennent les gens des rues, la multitude, les étudiants, les prostituées, les sous-traitants. Messieurs, arrêtez-vous. Vous n'êtes pas des mendiants? Vous n'avez pas à demander l'aumône. Nous autres, les robustes, qui faisons des pas de 2 mètres, au lieu de les écouter, mettons-les en pièces, eux, ces poyetaillons qui se sont collés en rallonge gratuite à chaque lit pour deux. Faut-il humblement les solliciter? Aidez-nous? Les implorer pour un hymne? Ou pour un oratorio? Nous-mêmes sommes créateurs dans un hymne ardent, le bruit de la fabrique et du laboratoire. Que m'importe Faust, en fusée de feu d'artifice, glissant avec Méphisto sur le parquet céleste. Moi, je sais que le clou dans ma botte est plus cauchemardesque que toute l'imagination de Goethe. Écoutez, la harangue, convulsive et plaintive, de l'actuel Zarathoustra aux lèvres de cri. Nous, la face comme un drap, mal réveillé, et les lèvres pendantes comme un lustre. Nous, forçats de la cité léproserie, où l'or et la boue recouvrent les pustules, nous sommes purs, plus que l'azur vénitien qu'en même temps lave les mers et les soleils. On se fiche qu'il n'y ait pas, chez Homère, Ovide, des gens, pareils à nous, que la suie a grêlé. Je sais que le soleil blêmirait en voyant les pipites d'or de nos âmes. Nos muscles et nos nerfs sont plus sûrs que les prières. Allons-nous implorer les grâces du temps? Nous, chacun de nous, dans ses cinq doigts, tient les courroies de transmission du monde. Voilà pourquoi j'ai gravi le Golgotha des auditoires, de Petrograd, Moscou, Odessa, Kiev. Et il n'y en a pas un qui ne cria « Crucifié, crucifiez-le !» Mais pour moi, vous tous, les gens, même ceux qui m'ont offensé, vous m'êtes plus que tout proche et cher. Avez-vous vu comment le chien lèche la main qu'il a frappée? Moi, qui suis la risée des gens d'aujourd'hui, comme une trop longue et scabreuse anecdote, je vois venir par-delà les montagnes du temps celui que nul ne voit. Là où bute la courte vue des hommes, à la tête des hordes affamées, sous la couronne d'épines des révolutions, s'avance l'an 1916.
Est-ce vous qui comprendrez pourquoi, serein, sous une tempête de sarcasme, au dîner des années futures, j'apporte mon âme sur un plateau? Larmes inutiles coulant de la joue mal rasée des places, je suis peut-être le dernier poète. Vous avez vu comme se balance entre les années de briques le visage strié de l'ennui pendu, tandis que sur le cou écumeux des rivières bondissantes, les ponts tordent leurs bras de pierre? Le ciel pleure avec bruit, sans retenue, et le petit nuage a au coin de la bouche une grimace fripée, comme une femme dans l'attente d'un enfant à qui Dieu aurait jeté un idiot bancroche. De ses doigts enflés, couverts de poils roux, le soleil vous a épuisé de caresses, importuns, comme un bourdon. Vos âmes sont asservies de baisers. Moi, intrépide, je porte au siècle ma haine des rayons du jour. L'âme tendue comme un nerf de cuivre, je suis l'empereur des lampes. Venez à moi, vous tous qui avez déchiré le silence, qui hurlez le cou serré dans les nœuds coulants de midi. Mes paroles, simples comme un mugissement, vous révéleront nos âmes nouvelles, bourdonnantes comme l'arc électrique. De mes doigts, je n'ai qu'à toucher vos têtes, et il vous poussera des lèvres faites pour d'énormes baisers et une langue que tous les peuples comprendront. Mais moi, avec mon âme boitillante, je m'en irai vers mon trône, sous les voûtes usées, trouées d'étoiles. Je m'allongerai, lumineux, revêtu de paresse, sur une couche moelleuse de vrai fumier, et doucement, baisant les genoux des traverses, la roue d'une locomotive étreindra mon cou.
J'ai gravi le Golgotha des auditoires, hein, dit Mayakovsky dans Le Nuage en pantalon. C'est le petit extrait qu'on vient d'entendre, ça sort d'un texte qui s'appelle Tragédie, hein, je crois.
C'est le prologue de Tragédie.
C'est une pièce de théâtre, en fait. C'est le prologue d'une pièce de théâtre. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que sous la censure encore, Mayakovsky dépose ce truc qui s'appelle, je crois, Un pouls de sel. Mais, c'est donc Mayakovsky auteur, titre Un pouls de sel, sous-titre Tragédie, et la censure ne relève que Mayakovsky Tragédie, quoi. Et l'histoire est que Mayakovsky garde ce titre, hein, et finalement, c'est une espèce de coup de génie, parce qu'on peut dire que chez Mayakovsky, le théâtre comme la poésie, ça circule, enfin, c'est pas, il n'y a pas de frontière entre les deux. Hein. Et lui-même va devenir un petit peu le héros, le personnage de toute son œuvre, quoi. Il a un côté mégalo, enfin, on peut dire un côté, il est au centre de toute son œuvre, hein. Mais en même temps, il prend le pari de ça, hein, il va revendiquer cette espèce de, voilà, je suis seul devant l'univers entier, hein. Mais je ne suis pas seul, je porte les espoirs de tout le monde, mais j'accepte cette position, quand il dit le Golgotha, quoi, il y a une, hein, l'allusion chrétienne.
Le nuage en pantalon devait s'appeler au départ le 13e apôtre.
Et voilà.
Le titre a été censuré et puis il a pensé au nuage en pantalon.
Voilà, et en plus, je pense que ce qu'on dit sur les futuristes, c'est qu'en tout cas, Chlebnikov, Bourdieu, etc., étaient passionnés, par exemple, par tout l'art oriental, l'art des icônes. Hein. Ils sont très tournés vers l'Orient, quoi. Il faut penser que ce mouvement révolutionnaire est un mouvement spirituel aussi. C'est d'ailleurs ce qui va faire le malheur de Mayakovsky quand il va se retrouver devant cette révolution qui ne donne pas beaucoup de place au spirituel, on peut dire. Hein.
La révolution spirituelle qu'ils attendaient, que tous les poètes attendaient, qui n'est pas venue.
Et les peintres aussi. Ouais. Et les peintres, quand on pense à Chagall, qui s'investit beaucoup aussi dans ce mouvement au début. Donc il se passe un truc très important. En 1913, ça c'est je crois que c'est une grande marque de sa vie, il rencontre deux sœurs. Il est amoureux de la première qui s'appelle Elsa Kagan et qui va devenir par la suite Elsa Triolet. Parce qu'elle se marie avec un officier français, puis qui va devenir la compagne d'Aragon. Et peu de temps après, il tombe amoureux de la sœur aînée d'Elsa, qui s'appelle Lili Brick, parce qu'elle est déjà mariée à un homme d'affaires, on va dire, hein, Ossip Brick. Voilà. Hein. Et ces gens-là, qui sont des gens riches, hein, vont le faire accéder à tout un milieu, un peu une intelligentsia moscovite, qui va le reconnaître. Mais quand on disait « j'ai gravi le Golgotha des auditoires », ça voulait dire aussi que pendant toute cette période, Mayakovsky, avec les futuristes, passe son temps à aller dire des poèmes partout, dans des cafés, dans des cabarets, et y compris loin de Moscou. Il commence déjà à faire une espèce de tournée de Russie.
Les tournées Kiev, Odessa, Moscou, ils partent dire, les futuristes, c'était ce qui faisait un peu leur marque, c'est qu'ils se peinturluraient le visage, c'était des cris de guerre pour eux, et ils allaient déclamer leurs poèmes, leur poésie, qui pouvait souvent paraître incompréhensible, mais ils faisaient fort d'aller provoquer.
Voilà, ils allaient habillés avec des accoutrements incroyables. Mayakovsky avait une espèce
était très connu pour avoir un ciré jaune dont il avait fait recousu lui-même pour en faire une sorte de veste derrière laquelle apparemment il se cachait, une sorte de grande veste avec un grand chapeau. Il allait déclamer ses poèmes.
Et parfois ils allaient les déclamer, ils marchaient de front par exemple à 4 ou 5 dans la rue, complètement accoutrés de façon incroyable, provoquant les gens et disant d'un air très sérieux leur texte. Enfin, ça fait penser beaucoup aux provocations des surréalistes et des dadaïstes. Ils étaient complètement
dans ce mouvement, hein.
Et donc au même moment, donc Ossip et Lili Brick vont l'aider à publier Le Nuage en pantalon, mais lui tombe fou amoureux amoureux de Lily Brick, et cette histoire va durer très longtemps parce qu'il se forme alors à ce moment-là une espèce de ménage à trois, on peut dire.
On peut dire, voilà, il y a une histoire entre Lily Brick et Ossip Brick, ils se sont mariés, c'est un couple, on va dire, très moderne, c'est-à-dire avec une certaine liberté de vie intime. Et donc, à cette liberté de vie se joint Mayakovsky, et c'est-à-dire qu'ils inventent une sorte de ménage à trois. Et comme on est dans les départs du communisme où, on va dire, la propriété ne devrait pas exister, il y a cette idée d'épanouissement sexuel, d'ouverture, où tout peut arriver, on peut être en couple, ma femme n'est pas ma propriété, je ne suis pas la propriété de ma femme. Il y a une sorte de liberté dans laquelle vont se perdre, Mayakovsky, lui, va se perdre là-dedans. Lily Brick, elle continue sa vie là aussi, puisqu'il y a quelque chose qui leur convient, et il y a quelque chose qui doit convenir d'une certaine manière à Mayakovsky, mais qui en fait, il souffre d'atroces jalousies, mais comme ça, cet ego, on va dire, surdimensionné, qui lui permet de traverser, de pondre et de donner son œuvre poétique, il souffre d'énormément de jalousie, et il vivra très mal cette relation un peu compliqué avec Lily Brick.
Bien complexe. Sûr, enfin bon, c'est une histoire qu'on va retrouver cycliquement. C'est à la fois cyclique dans sa vie et puis c'est cyclique dans le siècle aussi. C'est-à-dire, c'est des choses, enfin, ces espèces de, comment dire, de grandes crises et de revendications de liberté contre le couple ou dans le couple. C'est des choses qui se sont retrouvées plus tard, qu'on retrouve dans les années 30, 36, dans les mouvements anarchistes, qu'on retrouve en mai 68. Enfin, c'est quelque chose qui tourne un petit peu. Mais en tout cas, lui, on peut dire qu'il a payé un très lourd tribut à cette contradiction qu'il n'arrive pas à résoudre de sa vie, parce que Lily Brick aussi est une femme très volage, on peut le dire, qui aime beaucoup les aventures, donc qui part, enfin, aussi Brick est une sorte de compagnon qui restera son mari jusqu'en 45, mais bon, on va pas rentrer dans le détail de ça, ça n'a pas un grand intérêt, mais elle le fait souffrir aussi par son côté volage. Ça rappelle un peu aussi je sais pas, la liberté de Yuki Desnos par rapport à Robert Desnos. Il y a quelque chose comme ça qui se rejoue cycliquement. Et lui, il a choisi cette voie-là. Bon, il aura d'autres liaisons, mais on en parlera un peu plus tard. Peut-être on va arrêter ce micro qui est un peu long pour dire, bon, bah voilà, là, ça démarre, on peut dire, la conquête de l'intelligentsia moscovite va lui faire une réputation extraordinaire.
Donc que tu paraisses de l'air, que te fera attachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim. De connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré, toi dans les bras on su barrer sa route atroce à ma démence. Et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. un monde habité par le chant, elles amènent amour ma jeunesse.
Non, ce n'est pas vrai, non. Et toi, mon aimé, pourquoi ? Pourquoi donc ? C'est bon, je venais, j'apportais des fleurs, je n'ai pas dans leur boîte volé les petites cuillères en argent. Tout blanc, je chancelais du quatrième étage. Le vent brûlait les joues, la rue tourbillonnait, glapissant et hennissant. On s'en mêlait, lascif, trompe contre trompe. J'ai élevé au-dessus de l'agitation hébétée de la capitale un front sévère d'icône ancienne. Près de ton corps, comme au chevet d'un mort, le cœur a mis fin à ses jours. Tu ne t'es pas sali les mains par un meurtre grossier, tu as simplement laissé tomber. Il est dans un lit moelleux, lui, avec des fruits et du vin sur la paume de la table de nuit. L'amour, il n'y en avait que dans mon cerveau enflammé. Arrêtez cette comédie stupide. Regardez, j'arrache ma cuirasse jouet, moi, le plus grand des Don Quichotte. Souvenez-vous, sous le fardeau de la croix, le Christ, un instant fatigué, s'arrêta et la foule a hurlé « À mort ! À mort !» C'est juste. À tous ceux qui implorent le repos, craché sur leur jour printanier, à l'armée des précurseurs, aux volontaires condamnés, l'homme ne fait pas grâce. Assez. Maintenant, je le jure sur ma force païenne, donnez-moi n'importe laquelle, belle et jeune. Je ne gaspillerai pas mon âme, je la violerai et lui cracherai par dérision sur le cœur, œil pour œil. Tuez-moi, enterrez-moi, je m'exhumerai. Les couteaux de mes dents s'affûteront contre la pierre. Je me tapirai comme un chien sous le plancher des casernes. Et enragé, je mordrai les guiboles qui sentent la sueur et le bazar. La nuit bondissait sur vos pieds, c'est moi qui vous ai appelé. J'ai ressuscité comme un taureau blanc au-dessus de la terre. Mouh, mon encolure plaît, torturée par le joug, avec par-dessus des trompes de mouches. Je me métamorphoserai en élan, dans les fils électriques j'emmêlerai ma tête à ramure, les yeux injectés de sang. Oui, comme une bête traquée, je tiendrai bon au-dessus du monde. L'homme ne peut pas se tirer. Une prière à la bouche, il est couché sur les dalles, suppliant et sale. Je vais barbouiller sur le portail du sanctuaire la face divine de Stenka Razine. Soleil, ne lance plus de rayons. Asséchez-vous, rivière, ne le laissez pas assouvir sa soif, afin que par milliers naissent mes élèves et qu'ils viennent sur les places faire sonner l'anathème. Et quand enfin, se tenant sur la cime des siècles, leur dernier jour apparaîtra, dans l'âme noire des assassins et des anarchistes, je m'enflammerai dans une vision sanglante. Le jour commence à poindre, la bouche du ciel s'ouvre encore plus large, la nuit se boit gorgée par gorgée, des fenêtres une lueur d'incendie, des fenêtres la chaleur croule, des fenêtres un soleil dur se déverse sur la ville endormie, ma vengeance sacrée. À nouveau, par-dessus la poussière des rues, j'élève les gradins de mes vers. Je verserai mon cœur plein à ras-bord dans une confession. Gens de l'avenir, qui êtes-vous ? Voilà, moi. Je suis tout douleur et meurtrissure, et je vous lègue le verger de ma grande âme.
J'oublierai l'année, le jour, la date. Je m'enfermerai seul avec une feuille blanche. Au père, magie surhumaine, des mots transluminés par la souffrance. Aujourd'hui, dès que je suis entré chez vous, j'ai senti que ça n'allait pas. Tu cachais quelque chose dans ta robe de soie, et une odeur d'encens s'élargissait dans l'air. Contente ? Un froid ? Très ! Le trouble effondre le rempart de la raison. J'entasse le désespoir, brûlant et fiévreux. Écoute. De toute façon, tu ne pourras pas cacher le cadavre. Fais crouler sur ma tête le mot terrible. De toute façon, chacun de tes muscles proclame comme au porte-voix « Il est mort ! Il est mort ! Il est mort !» Non. Réponds. Ne mens pas. Comment m'en irais-je ainsi ? Dans ton visage, tes yeux ont creusé les fosses des deux tombes. Les tombes s'approfondissent sans trouver de fond. Il me semble que je chute de la passerelle des jours. J'ai tendu mon âme comme un câble au-dessus de l'abîme et jonglant avec les mots, je m'y suis balancé. Je sais que l'amour l'a déjà usé. Je devine l'ennui à tant de signes. Rajeunis-toi, mon âme. Révèle au cœur la fête du corps. Je sais, chacun paie pour avoir une femme. Qu'importe si pour le moment, au lieu du chic des robes de Paris, je t'habille de la fumée du tabac. Mon amour, comme l'apôtre des temps anciens, je le porterai par mille milliers de chemins. Dans les siècles, t'es préparé une couronne, et dans cette couronne, mes mots sont comme un arc-en-ciel de convulsions.
Voilà, sur cette explosion symphonique de Chostakovitch, on va parler de la révolution de 1917 donc, et de Mayakovsky. On suit son parcours. Donc, c'est cette révolution qui se passe en deux temps. Vous savez, il y a d'abord en février une première bascule politique qui suit en octobre de la prise de pouvoir par les bolcheviks. Et lui, il est du côté des bolcheviks. Il est déjà depuis très longtemps adhérent au POSDR, au Parti ouvrier social-démocrate révolutionnaire. Et il est du côté de la branche bolchevique, hein, qui veut dire d'ailleurs majoritaire, mais qui à l'époque est minoritaire, je crois, oui. Hein, à l'époque où elle prend le pouvoir. Et alors, c'est une explosion sociale inimaginable pour nous, en tout cas. Alors, ça va ouvrir à des hostilités très violentes. Hein. Et lui, il est complètement en prise avec ça, quoi.
Il est projeté président de l'Union des travailleurs culturels, c'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi c'est pas Gorky qui fait ça? Mais Gorky, entre février et octobre, il était un peu plus ou moins avec le gouvernement, donc à bas les traîtres. Et on met en avant cette figure.
Il fallait pas futuriste. Bon avoir été voilà. Chez les Mencheviks avant. Et donc Gorky est remplacé par ce jeune qu'on connaît peut-être pas beaucoup qui a une réputation.
Qui est connu par ses éclats et par ses provocations, mais tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, lui, il se verrait presque président. Il voit des affiches en disant, mais regarde, on fait une élection, je mets des affiches partout et on pourrait m'élire. Enfin, on ne veut pas être président. Il dit, mais pourquoi pas, avec la folie de ce qui se passe en ce moment?
Absolument. Il y a un côté. Alors, c'est un acteur aussi, il faut le dire. Ça, c'est un comédien extraordinaire. C'est-à-dire que ces récitals de poésie, c'est une espèce de happening tout le temps. Hein. Il apostrophe les gens, il les provoque. Hein, et même, il est prêt. Voilà. D'ailleurs, on ne l'a pas dit au début, mais quand c'est Khlenikov qui lui dit une fois, qui le présente, parce qu'il fait un voyage, ou comment ça se passe quand il le présente en lui disant, c'est un des plus grands poètes du siècle.
C'est Bourliouk qui dit. Quand il arrivait dans les soirées,
il le présente en disant « Voici le plus grand poète du siècle ». Et Mayakovsky est un petit peu interloqué. Et Bourliouk qui dit maintenant « T'as intérêt à l'être ». Et c'est comme ça que ça commence un petit peu. Mais il y a ce côté Paris, il y a ce côté challenge. Et on y va, quoi. Il y a un
avec
côté culot.
Le café des poètes, il y avait le café des poètes où allaient tous se représenter, que ce soit les futuristes, les anarchistes. Et c'est là d'ailleurs qu'il se fait remarquer pour sa carrière de cinéma. Parce qu'il entame quand même une petite carrière de cinéma... où il joue « Il n'est pas né pour l'argent »,« La demoiselle et le voyou », il écrit « Enchaîné par le film », un scénario original, et il commence une carrière, il commence à être bien reconnu.
Connu comme acteur.
Comme acteur.
Alors, et il faut dire aussi qu'il y a une grande amitié avec Meyerhold.
Un
grand homme de théâtre, enfin un grand metteur en scène et homme de théâtre de l'époque, hein, qui va grandir d'ailleurs dans cette époque aussi.
Qui de son côté aussi dans le théâtre était en train de casser un peu tout ce qui se faisait, inventant.
Espèce d'inventeur permanent qui d'ailleurs se souciait pas trop de systématiser les choses, découvrait un truc, le laissait à d'autres qui allaient s'en emparer et puis aller tout de suite à autre chose. Quoi. Il y a une espèce d'ébullition dans cette période et il faut parler. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour le dire, mais les peintres ont un rôle très très important et c'est aussi la couleur, la forme, l'explosion des formes. On peut penser que dans cette période-là, par exemple, le Vitebsk, qui est la ville natale de Chagall, enfin la ville en tout cas où il grandit, eh bien, à un moment, les peintres de Vitebsk décident de changer l'aspect de la ville. Ils vont repeindre tous les murs de briques rouges en blanc et ils vont dessiner des énormes losanges, des formes géométriques bleues, orangées, vertes. Et tout ça, devant une foule fascinée par ce qui se passe, bon, qui dit pas non, mais qui est complètement subjuguée par ça. Et c'est permanent. On a du mal à imaginer ça, donc c'est un espèce d'espoir absolument énorme. Alors, quand même, dans ce moment-là, il y a aussi une première séparation avec Lily Brick, je pense.
C'est le début des difficultés, des déboires de son histoire d'amour et de sa vie affective.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'il se sera séparé de Lily vraiment, il sera toujours dépendant de cette femme.
Il dit souvent à Roman Jacobson, qui est ce linguiste à qui il est ami, il dit « j'ai besoin d'un grand amour » et il sera... Enfin, il y a des très beaux textes de Pasternak sur cette espèce de faiblesse permanente de Mayakovsky. Il dit « c'est un géant qui soulève les foules » et en même temps, il y a des moments où on ne croirait pas qu'à cet homme à qui tout a été donné, le talent tel qu'il l'a, l'approbation des foules, eh bien, il y a des moments où il se retrouve comme un enfant à demander d'être consolé, d'être bercé. Voilà. C'est un peu le géant au pied d'argile. Quoi. Voilà. On ne va pas épiloguer là-dessus, on n'est pas là, on n'est pas d'assez bon psychologue pour parler de ça. Et peut-être on va laisser la place à un autre texte. La guerre et le monde. Non, pardon, à vous. À vous, mon cher.
Vous qui passez d'une orgie à l'autre avec vos salles de bain, vos show water closets, n'avez-vous pas honte d'éplucher dans les gazettes la liste des médaillés de Saint-Georges? Savez-vous, vous les bornés, les nombreux, vous qui ne pensez qu'à vous empiffrer, qu'à l'instant peut-être une bombe arrache une jambe au lieutenant Petrov. Si celui-ci qu'on conduit à l'abattoir, lardé de blessures, soudain voyait comment, la lèvre graisseuse de côtelettes, concupiscent, vous chantonnez Sévérianine. Donnez sa vie pour votre plaisir, à vous, amateurs de femmes et de bons plats. J'aimerais mieux dans un bar à des putes servir du jus d'ananas.
En bon rapport avec les chevaux. Les sabots frappaient, comme s'ils chantaient, et clic-cloc, et clic-cloc. Sous les devants, chaussée de glace, la rue dérapait, le cheval sur sa croupe s'est affaissé. Et d'un coup, tous les badauds-badaudants qui traînaient leur guêtre sur le Kuznetsky se sont attroupés, et les rires ont fusé et sonné. Le cheval est tombé! Il est tombé, le cheval! Le Kuznetsky riait. Seul, moi, je n'ai pas mêlé ma voix à la sienne. Je me suis approché, et j'ai vu les yeux du cheval. La rue chavirait, s'écoulait à sa manière. Je me suis approché et j'ai vu une larme après l'autre rouler sur sa tête et se cacher dans ses poils. Et une espèce de tristesse générale, animale, s'est déversée hors de moi en déferlant. « Cheval, il ne faut pas, cheval. Écoutez, à quoi pensez-vous? Que vous êtes moins bien qu'eux? Mon gars, nous sommes tous un peu des chevaux. Chacun de nous est un cheval à sa façon. » Peut-être qu'il était âgé et n'avait pas besoin d'être bercé. Peut-être que ma pensée à son sujet lui a paru déplacée. En tout cas, le cheval s'est cabré et redressé, s'est remis sur ses pieds, a henni et il est reparti. Il agitait sa queue comme un gamin rouquin et il est retourné tout gai reprendre sa place dans l'écurie. Et il lui a semblé qu'il était à nouveau un jeune poulain qui avait à vivre et à travailler.
Les yeux exorbités, un phare derrière les montagnes pleure à travers les océans. Et dans les océans, les escadres se tordent, empalées sur une mine. En un cauchemar plus noir que l'enfer de Dante, faisant hennir et gronder les reins à la voix de tonnerre, tremblant pour Paris, sur la Marne, Joffre se défend d'un dernier obus. Au sud, Constantinople, montrant les dents de ses mosquées, vomit dans le Bosphore des corps déchiquetés. Vagues secouaient-les, avec leurs mâchoires plantées dans des rognures d'hosties. Dans la forêt, pas une voix, quelque chose même d'exagéré dans ce silence. Les leurs et les nôtres sont mêlés. Il n'y a plus que les corbeaux et les nuits qui passent drapés de noir en procession monastique. Et de nouveau, offrant leurs poitrines aux décharges, voguant à travers les printemps, franchissant les hivers, les armées l'une après l'autre, rang par rang, submergent les terres, les mille terrestres. Ça commence à flamber, les bois s'en extirpent de nouveau. Un pentagramme de feu est au seuil de la prairie. Les éclairs des barbelés dévorent ceux qui étaient devenus charbon. Les batteries chauffent à blanc l'air brûlant. Elles sautillent sur les cadavres des villes et des villages. Leur gueule d'airain dévore tout. Cracheur de feu, tu trouves partout quelque chose à châtier. Si je m'accroche à une fusée et que je cours vers le ciel, au bord du ciel, je vois ardre, je tout rouge, le sang de Pégou. Les terres, les eaux et l'air sont tout labourés. Vers où hâterai-je mon pas? Déjà au bord de la folie, déjà soulevé de sanglots, l'âme implore. Guerre, assez, calme-les, la terre est déjà toute nue. Emportés par leur élan, les tués se précipitent et une minute encore courent sans tête. Et au-dessus de tout ça, un diable souffle la lueur et la fumée de ses bâillements. C'est au milieu d'une constellation de lignes ferroviaires, le ciel de Berlin, illuminé par les fabriques de poudre.
Oursification. Tel un ours, saisi de meurtrière fureur sur le téléphone, mon poitrail pèse tant qu'il peut. Mais le cœur plus profond s'enfonce dans les pieux. Ça coule, des ruisseaux de cuivre rouge, rugissement et sang. Je ne sais si ça pleure ou pas, les ours, mais s'ils pleurent, c'est bien comme cela. C'est bien cela, sans faux semblant ému. Ils geignent, et leur plainte infinie déchire. Et c'est bien ça, leur espèce d'ours balchine, réveillé par les cris, grogne derrière le mur. Des ours, justement, voici la manière, sans bouger. Le mufle dressé, comme mes pères, hurler, m'égosiller et me coucher dans ma tanière. Les grenades des pins ne s'entredaient pas dans la pagaille. Il peut seulement sourcifier ainsi, à travers les pleurs et les poils, franges de l'œil. La chambre, qui prend et qui fait l'eau. Le lit, les ressorts, couverture en désordre, couché sur les ressorts, silencieux, ramolli. Un frémissement gagne les ressorts, un clapotis fait palpiter le drap du lit. Le froid de l'eau a léché mon pied. D'où vient cette eau? Pourquoi y en a-t-il tant? J'ai pleuré ça tout seul. Pleurniché, saletant. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas autant larmoyer, baignoire du diable. L'eau est derrière le divan, sous la table, derrière l'armoire. Du divan divaguent les vagues, là-devant, soulevant une valise par la fenêtre, la cheminée, un vieux mégot, c'est moi qui l'ai jeté, allez l'éteindre, sur ses ergots, l'effroi. Où ça? À quelle cheminée? Une verste, à une verste, la berge brûle, tout s'écroule, même l'odeur des choux qui monte des cuisines, chaque jour, fadement, doucereuse. Le fleuve, au loin les rives, quel vide! Le vent me pousse et hurle, un fleuve, un grand fleuve, des eaux glacées, je suis au milieu, le fleuve se ride, ours blanc juché sur un bloc de glace, je flotte sur mon oreiller de glace, les rives défilent, les vues virevoltent, sous moi la glace de l'oreiller, les flots galopent, l'oreiller radeau vole, je vogue, je délire sur mon glaçon oreiller, une seule impression n'est pas pour l'oreiller, je dois passer ou bien sous les arceaux du lit ou bien sous l'arche d'un pont singulier. Où étaient donc ainsi le vent et moi? Ce fleuve, pas le même, un autre, non pas un autre, il était là, j'étais debout, il était là, il brillait, maintenant je me remémore, la pensée croît, je n'en viens pas à bout, arrière, l'eau ne relâche pas le radeau, de plus en plus visible, de plus en plus précis, désormais c'est inévitable, il va être là, le voici.
Vous êtes parti, comme on dit, pour l'autre monde. Le vide. Vous planez vers le ciel pailleté d'étoiles. Plus d'avaloir, ni de bibine. Sobriété. Non, Essénine, ce n'est pas de la moquerie. Dans ma gorge, pas de ricanement, mais une boule de chagrin. Je vous vois, d'une main de cire hésitante, agiter le sac de vos propres os. Cessez, laissez tomber. Qu'est-ce qui vous prend d'étendre sur vos joues cette craie mortelle? Vous qui saviez écrire des choses comme personne au monde. Pourquoi et comment? On s'étale en conjecture. Les critiques bredouillent, à qui la faute? Beaucoup à dire, mais surtout, manquait de liaison. Le résultat? Trop de bière et de vodka. On dit que vous auriez dû troquer la bohème pour la classe. La classe vous aurait influencé. Fini les rixes. Mais cette classe a soif. Elle l'étanche avec du kvass. La classe, elle aussi, pour boire, en connaît un rayon. On dit que si on vous avait collé quelqu'un de la sentinelle, vous auriez pu faire de nets progrès. Vous auriez pu chaque jour écrire vos 100 vers, ennuyeux et longs comme du doronine. Pour moi, si ce délire s'était réalisé, vous auriez bien plutôt sur vous-même porté la main. Mieux vaut mourir de vodka que d'ennui. Ni le nœud coulant, ni le canif ne nous donneront la clé de cette perte. Peut-être, s'il y avait eu de l'encre à l'hôtel Angleterre, vous auriez pu éviter de vous ouvrir les veines. Les imitateurs se réjouissent. Bis ! Tout un peloton qui se font sur eux-mêmes justice. Pourquoi augmenter le nombre des suicides ? Mieux vaudrait augmenter la production d'encre. Pour toujours maintenant, cette langue est enfermée derrière ses dents. Il est pénible et déplacé de faire des mystères. Le peuple, celui qui crée la langue, a perdu un de ses artisans noceurs et sonores. Et l'on apporte la quincaillerie des vers funéraires, presque inchangés depuis les dernières obsèques. Il faudrait disperser sur le tertre funéraire avec un bâton ces vers inexpressifs. Est-ce ainsi qu'on rend hommage à un poète? On ne vous a pas encore érigé un monument. Où sont les onces de bronze ou le grain du granit? Que devant la grille du souvenir, on apporte déjà la camelote des hommages et des dédicaces? Votre nom est mis sur des mouchoirs. Sobinov bave vos paroles, et sous un bouleau malingre, il expire. Plus un mot, mon ami, plus un soupir. Ah, c'est autrement qu'il faudrait parler à cette espèce de Léonide Lohengrin. Se dresser en fulminant scandaliste. Je ne permets pas qu'on mâchouille et qu'on massacre comme ça les vers. Siffler dans ses doigts, à les assourdir et les envoyer au diable. Que détalent ces ordures sans talent en gonflant les voiles de leurs vestons. Que Kogan, emporté dans sa débandade, pique les passants de sa moustache. La saloperie de nos jours ne s'est pas encore raréfiée.
Ainsi s'achève la première partie de cette émission consacrée à Vladimir Maïakovski. Je dois remercier nos camarades Patrick Vendrin, Jean-Claude César, évidemment Yves Flanc, Julien Guil qui était avec nous, François Zabot aussi qui nous a dit quelques textes en russe. Les musiques, je les cite rapidement, il y avait Stravinsky, Le Sacre du Printemps, Léo Ferré que tout le monde a reconnu, Shostakovich, un extrait de L'Âge d'Or et un court extrait de Mesmero qui accompagnait cette ode à Essénine que nous a dit Yves brillamment. Voilà, pour terminer, nous vous souhaitons une bonne année remplie de poèmes. Nous nous retrouverons donc dans 15 jours pour la seconde partie de cette émission sur Maïakovski. Vous pouvez écouter cette émission sur le site de Radio Clapas, en direct évidemment, sur 93.5. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions en archive sur le site www.michelarbats.com. Envoyez-nous des mails, ils deviennent de plus en plus nombreux. Nous sommes heureux de savoir que nous avons des auditeurs à Shanghai et dans le Missouri grâce à Internet et même à Lausanne. Voilà, si vous voulez participer à ces émissions, vous pouvez aussi nous donner de la voix comme on donne son sang, parce que la poésie a besoin de sang frais. Et enfin, vous pouvez inviter la BIP, qui se donne comme tâche de proférer la poésie partout dans tous les lieux de surprise, sur vos lieux de travail, sur vos lieux de paresse et sur vos lieux d'amour.